Oui, je suis une femme, c'est une identité, sa femme.
Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois.
C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.
Bienvenue sur le podcast des Grandes Girls. Un talk imaginé par des femmes, pour des hommes et des femmes.
Si les Grandes Girls l'ouvrent, c'est pour faire entendre votre voix. La voix de celles et ceux qui osent et font bouger les lignes. La voix de profils inspirés et inspirants dans la région, mais pas que.
Engagé, mais surtout pas excluant, le podcast des Grandes Girls parlera actu, culture, société, santé et tendance.
Je suis Katia Martin.
Je suis Caroline Lévy.
Nous sommes les Grandes Girls.
C'est parti!
Dans ce podcast, nous allons parler de femmes.
Ah et bon oui. Mais qu'est-ce qui se passe dans quelques jours? C'est la Journée internationale des droits des femmes, mais évidemment, on fait une émission spéciale, c'est
et
original.
On ne pouvait pas ne pas en parler. Et si on parle femmes en ce moment, comment on fait pour parler de femmes? Quel est le film événement dont tout le monde parle?
Eh ben, on parle d'une femme qui s'appelle Woman, évidemment. Alors, on a eu en exclusivité la chance de rencontrer la co-réalisatrice du film qui vient de sortir sur vos écrans et dans toutes les salles de cinéma de France. Le film Woman, qui est donc un film d'Anastasia Mikova qu'on a rencontré en collaboration avec Yann Arthus-Bertrand. C'est son premier film en co-réalisation. Et on a un très, très, très long entretien qu'on va vous passer.
Qu'on va vous partager, qui nous semblait vraiment important. Alors on a pris le temps parce que déjà on aurait pu parler des heures avec elle, partager de son expérience. Il faut savoir qu'elle a voyagé dans le monde entier, qu'elle a interviewé il y a plus de 2000 femmes qui ont été interviewées. Elle en a vu quasiment 600. C'est des entretiens, c'est des témoignages, c'est des très longs moments de partage où on a donné la parole aux femmes. Et ce qui était vraiment intéressant, vous le verrez, c'est que finalement il n'y a eu aucun tabou et que ce qu'on peut retenir, et vous le verrez à travers cet entretien, c'est que c'était le moment et que toutes les femmes, des femmes qui normalement ne peuvent pas s'exprimer, ont tout lâché. Et quand on les a rappelées après, et vous l'entendrez, elles ont assumé et il y a vraiment quelque chose qui se passe. On est très fiers de ça. Donc voilà, ça c'est la deuxième partie de l'émission. Mais pour cette première partie, je crois qu'on a en ligne notre
Émy internationale, hein, puisque tu nous entends.
Guten Tag.
C'est incroyable la technologie, on peut se parler partout dans le monde, et toi depuis Berlin et nous depuis les studios de Top Music. Alors on l'a dit, hein, Emanuela, on est à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes, et comme chaque année on essaye de marquer un peu les esprits, de faire quelque chose qui a du sens, eh bien on s'associe à la marque que tu défends et dans laquelle tu travailles, puisque c'est une start-up qui s'appelle Chouchou, pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore cette marque révolutionnaire allemande, berlinoise. Ce sont des cordons, des coques en fait, qui permettent de se promener avec son smartphone.
Disons que c'est un objet qui facilite la vie des gens.
Exactement. Et dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, vous faites une collaboration et on s'y associe avec l'ONG CARE. Est-ce que tu peux nous en parler?
Mais bien sûr. Alors déjà, gros bisous à vous toutes et à celles qui sont dans le studio en ce moment. Je suis trop contente d'être dans l'émission, même de loin. Comme vous le savez, chers auditeurs et auditrices, je suis toujours autant engagée dans les mouvements féministes et j'ai voulu cette année faire une action importante au sein de Chouchou. Donc, on n'entend pas forcément des entreprises d'accessoires qui soulèvent ce genre de problématiques. Et j'avais envie de travailler avec une association à laquelle je donne personnellement depuis des années, qui s'appelle donc CARE. Et je voulais plus particulièrement m'intéresser sur la partie qui concerne les droits des femmes dans le monde, la lutte contre les violences, la lutte pour scolariser toutes les filles et toutes les femmes dans le monde. Et du coup, j'ai pas mal négocié avec eux et on a réussi à mettre en place un partenariat pour dans le cadre du 8 mars. Donc on va mettre en place une opération qui dure du 6 au 8 mars, où par exemple le code des Grandes Girls, qui est Girls Care, donc Girls comme filles en anglais.
On va bien sûr tout partager sur les réseaux sociaux.
Oui, bien sûr, je le repartagerai aussi. En tout cas, avec ce code, Chouchou donnera de sa poche 5 euros par commande passée avec ce code à l'association. Et par ailleurs, pour pour que tout le monde puisse en bénéficier. On offre aussi 10 euros aux personnes qui participeront, qui utiliseront ce code sur un certain produit. Donc,
on donnera toutes les infos sur le kit modulaire en l'occurrence. Hein.
Oui, le kit modulaire en l'occurrence, oui.
D'accord. En tout cas, nous, on est évidemment fiers de pouvoir s'associer à ce partenariat qui fait sens. Alors, tu l'as dit, hein, CARE, c'est présent dans 100 pays. C'est une ONG qui défend l'égalité, ce que nous défendons aussi à l'antenne. CARE soutient l'autonomisation des femmes, et ça, c'est très important, notamment dans certaines parties du monde. Défense, évidemment, des droits des femmes et l'empowerment au sein de leur action. Alors, merci déjà, Emmanuela, de continuer à nous associer et d'être toujours présente et mobilisée avec les grandes girls. Et bien sûr, on vous donnera toutes les informations. Mais ça fait écho.
Et on vous invite tous à participer, évidemment.
Bien sûr. Alors, déjà, on s'achète un kit modular et une coque chouchou qui va vous révolutionner votre vie parce que vous êtes quand même, vous avez votre téléphone et vous avez les mains libres. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Donc, nous, on est des adeptes, hein, Katia et moi, de chouchou. Et puis en plus vous faites une bonne action puisque une partie de la coque et de ce que vous payez va à cette association, à cette ONG qui lutte.
Et c'est intéressant, moi je voudrais te poser une question, Amy, c'est que on parle beaucoup aujourd'hui, et j'en ai aussi parlé dans ma dernière chronique, du sens, d'avoir du sens dans tout ce qu'on fait, et on le sait aujourd'hui, on choisit plus une boîte, une entreprise que par rapport au poste, au salaire, etc. Aujourd'hui, faire une action telle que celle-ci, qui est porteuse de sens, dont tu as eu l'initiative, qu'est-ce que ça a comme effet auprès des collaborateurs et de ton équipe ?
Je pense que, alors pour petite info, chez Chouchou, on est 70% de femmes. Ça, déjà, ça a probablement été une volonté de la part de Yara, qui est la fondatrice. Et on a toujours été dans un esprit empowerment ici, dans le sens où on met les femmes au centre autant de notre communication qu'au bureau, sur des choses toutes simples, mais par exemple, le premier jour de nos règles, si on n'est pas bien et qu'on ne vient pas travailler, ben, c'est complètement OK et c'est toléré. Dans les toilettes, on va trouver des protections hygiéniques gratuites si jamais on en a besoin, etc. Donc, même en général en Allemagne, l'accompagnement pour les femmes, même les femmes enceintes, par exemple, la durée du congé maternité, c'est une année. Enfin bref, en tout cas, ça a permis aussi de pouvoir créer des liens solides entre toutes les filles de la boîte, parce qu'on a fait un shooting photo tout ensemble pour l'Empowerment, qui sera diffusé sur notre site à partir du 6 mars. Et je pense que ça permet aussi autant à nos collaborateurs qu'à nos clients, qu'aux gens qui nous suivent, qu'aux ambassadrices influenceuses avec qui on travaille comme vous, de montrer qu'on n'est pas juste une marque d'accessoires, mais qu'on s'engage vraiment auprès d'une association qui agit vraiment. Et voilà, donc je pense qu'on est toutes fières aujourd'hui, même les hommes chez Chouchou sont contents et approuvent cette démarche. Donc je pense que c'est quelque chose qui ne peut que pousser vers le positif tout le monde. Et j'arrête de parler, sinon je vais prendre tout le temps.
Non, en tous les cas, bravo pour cette initiative. Bravo, on rappelle, hein. C'était important évidemment pour nous, puisque tu es une grande girl, même de loin, et donc du coup, ça porte notre voix. On est très fiers que tu montes de telles initiatives, et évidemment,
on les soutient. On rappelle, Girls Care, c'est le nom, c'est le c'est ce qu'il faut inscrire, et 5 euros est reversé à l'ONG CARE, qui vient en aide aux femmes partout dans le monde. Merci Amy, on va continuer et notre émission spéciale Grande Girl à quelques jours de la Journée internationale des droits des femmes. On t'embrasse.
Alors parler aujourd'hui de... Alors avant de vous laisser découvrir cette interview, on va un petit peu rebondir sur ce film aussi, ce qui évidemment il a fait écho chez nous, mais de la beauté de ce film où on voit toutes ces femmes. Alors le parti pris a été de balayer des sujets bien particuliers qui sont ressortis des interviews, et elle nous a confié, vous allez voir qu'en fait Yann Arthus-Bertrand, étant un homme, quand elle a dit on va parler des règles, on va parler de sexualité, il dit mais pourquoi on parlerait des règles, et en fait il s'avérait que toutes les femmes finalement
tu révèles tout.
Je révèle tout, on peut en parler. Non mais avant d'en parler, je trouvais ça intéressant, et moi j'étais étonnée qu'on puisse aujourd'hui parler sans tabou parfois même encore avec moins de tabous que nous on peut avoir dans nos pays occidentaux, dans notre culture, malgré la chance qu'on a de pouvoir parler librement. Et ce que je retiens de ce film, c'est la beauté de ces femmes, quels que soient leurs âges, quelle que soit leur personnalité, quel que soit leur vécu. C'est la sincérité avec laquelle elles nous livrent leur parcours. Oui. Et ça démarre par justement qu'est-ce que c'est pour moi, qu'est-ce que ça veut dire être femme. Et quand on sait que dans beaucoup, beaucoup de pays, être femme, c'est difficile et en tout cas, c'est cruel.
En fait, c'est vraiment une. Et on en parle pendant l'entretien, c'est une célébration de la femme, peu importe où elle se situe dans le monde et peu importe d'où elle vient, c'est vraiment une ode à la femme et à toutes les femmes. Je vais juste lire peut-être, vous vous en doutez, hein, pour pouvoir trouver des personnes qui osent témoigner. Il a fallu l'aide de fixeurs et d'un partenariat avec tous les ONG partout dans le monde. Je vais juste lire un petit peu leur, on va dire, leur profession de foi, en fait, du film, puisque je suis sur leur site et avant même de passer cet entretien avec Anastasia Mikova, la co-réalisatrice, voilà ce qui est dit sur le site. Nous sommes convaincus que donner des ressources et une voix aux femmes peut changer le monde. Aujourd'hui, des milliers d'ONG mènent un combat essentiel en travaillant à faire progresser le droit des femmes partout dans le monde. Women portent leur combat, leur histoire, leur action. Les témoignages de ces milliers de femmes qui, chacune à sa façon, s'affirment et combattent les stéréotypes, révolutionnent leur vie, celle de leur famille et de leur village. C'est aussi grâce à l'œuvre de ces milliers d'associations. Women est un hommage à leur travail et une occasion unique de donner de la visibilité à leurs actions en sensibilisant le grand public aux enjeux liés aux droits des femmes et ce, dès la création de ce film. Donc voilà, c'est important, c'est un film collectif, même si on a la parole de la co-réalisatrice Anastasia Mikova, mais c'est une merveilleuse célébration à toutes ces femmes partout dans le monde. Et je crois que cette journée internationale des droits des femmes
va changer le regard.
Voilà.
Vraiment changer.
Et cette journée internationale des droits des femmes est importante pour ça. C'est-à-dire que ça éveille les consciences sur les droits des femmes partout dans le monde. Évidemment, nous en France, évidemment, nous en Alsace, évidemment, nous à Strasbourg, mais partout dans le monde. Et ce film Woman qui vient de sortir dans les salles est une merveilleuse vitrine pour comprendre ce qu'est une femme dans le monde. Voilà.
Alors, un petit, tout petit extrait vraiment
qui fait sourire.
Minuscule, mais qui fait sourire.
Je peux faire quelque chose pour que le monde change des mains.
Et ça, c'est important parce qu'on a l'impression que ces femmes ont eu le courage de parler parce qu'en disant si on parle aujourd'hui, bah, ça va peut-être changer demain. Ça ne changera peut-être pas leur destin puisque pour beaucoup de femmes, elles racontent un parcours difficile, mais ça peut changer pour demain. Et ça, c'est vraiment...
Bah c'est plein d'optimisme aussi. Leur parcours difficile et en fait leur parcours de femme, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'au final, bien sûr qu'il y a des victimes de violence, il y a des victimes de guerre, mais il y a aussi de très beaux moments quand on parle de sexualité, d'intimité, la première fois qu'elles ont fait l'amour et qu'elles ont eu l'orgasme ou la première fois qu'elles ont eu un enfant. Enfin, il y a des tellement beau moment et on se rend compte que peu importe où on est dans le monde, ben
c'est universel l'amour et l'orgasme.
C'est universel l'amour et l'orgasme, mais surtout le fait
avec
d'être une femme
différente de le raconter.
Être une femme, ça c'est universel aussi, voilà. Donc
on vous laisse découvrir cet extrait qui était vraiment un très bel échange qui aurait pu durer longtemps en tous les cas.
Qui dure longtemps, on est très fiers
de vous le présenter.
Peut-être parler de la genèse de ce projet, finalement comment il est né. Est-ce qu'il y a un lien avec tout ce mouvement de l'affaire Weinstein, du courant MeToo, est-ce que c'est né, ça a une cohérence ou est-ce que c'est né avant ?
C'est né bien avant. C'est né alors qu'on tournait notre précédent film avec Yann qui s'appelait Human et pour lequel on avait déjà été à la rencontre des gens qui n'avaient pas l'habitude forcément de parler devant une caméra. Mais là, pour le coup, il y avait des hommes, des femmes, des enfants, tout le monde était concerné. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappée. Moi, j'ai été première assistante réalisatrice sur ce film et j'avais fait beaucoup, beaucoup d'entretiens, près de 700 entretiens sur les 2000 de Human. Et il y avait quelque chose qui m'avait frappée sur le terrain. C'était quand on arrivait dans un endroit, les hommes facilement avaient envie de partager leurs histoires, étaient fiers, se mettaient un peu en avant en disant « mais tu sais qui je suis et tout, tu fais un film, ben voilà, je veux bien, on va raconter ma vie ». Alors que les femmes au début étaient assez méfiantes, posaient beaucoup de questions de pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous voulez faire, etc. Par contre, une fois qu'elles étaient devant la caméra, c'était comme si elles avaient attendu ce moment toute leur vie. Et comme si toutes ces choses qu'elles avaient gardées en elles, pour certaines pendant des décennies ou même vraiment toute leur vie, pouvaient enfin sortir. Et quand on parle de la libération de la parole des femmes, moi c'est quelque chose que J'ai ressenti viscéralement en faisant les entretiens. Et donc, en rentrant de tous ces tournages et en finissant Human, on en a parlé avec Yann. Je lui ai dit, écoute, quelque chose est en train de se passer. Les femmes sont prêtes à prendre la parole. Parce que dans les mêmes pays, ça fait longtemps que je fais ce métier, il y a 10-15 ans, il était quasi impossible de trouver une femme qui était prête à parler à visage découvert devant la caméra de certains de ces sujets. Et là, je ne dis pas qu'elle venait par centaines, mais il y avait des femmes partout qui voulaient le faire et qui même... pour qui c'était important de le faire. Et donc on se dit, ok, quelque chose est en train de se passer, elles ont besoin d'une fenêtre, en tout cas elles sont prêtes à prendre la parole, donc on va offrir cette possibilité aux femmes. Et donc on a démarré ce projet, et MeToo et Weinstein, tout ça est arrivé un an et demi plus tard, et quand c'est arrivé, on n'était pas du tout surpris, on était déjà en plein dans les interviews.
Alors tu dis justement, les femmes étaient prêtes à parler, c'est un peu comme une thérapie de poser son histoire et de parler de choses aussi intimes. C'est venu naturellement, toutes ces femmes-là. Comment on mène une interview quand on parle de sujets qui peuvent être aussi tabous dans certains pays ou pour certaines femmes, ou qui vont peut-être parler même de choses très intimes dont elles ont parlé à personne? Comment on fait? Est-ce qu'on est vraiment dans un rôle de journaliste, ou est-ce que là on est vraiment dans un échange de femme à femme?
On fait pas comme là ce qu'on fait nous, tu vois. Là aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec ce que nous on fait. En effet, c'est beaucoup plus proche de la psychanalyse, et de toutes les manières, même si dans le film vous ne voyez que des petits extraits de chacune de ces interviews, en réalité ce sont des entretiens qui durent entre 2 et 3 heures.
C'est ce que je veux dire, c'est combien de temps?
Oui,
c'est deux
parce et que en fait la question de la confiance, c'est ça la,
bien sûr,
qui est essentielle dans ce qu'on fait. C'est la base de ce qu'on fait. Et cette confiance, tu ne peux pas l'avoir au bout de 5 minutes de conversation. Tu ne peux pas la créer comme ça en 2 temps, 3 mouvements. Et tu ne peux pas arriver devant quelqu'un et lui dire au bout de 10 minutes, et alors ton premier orgasme, c'était comment? Ou le viol que tu as vécu, alors tu as besoin d'en parler, vas-y, raconte-moi. Ce n'est pas possible, tout simplement. Donc il y avait un énorme travail de préparation. On avait, moi, j'ai fait beaucoup d'interviews, mais aussi j'avais une équipe de 5 journalistes formidables qui, pour le coup, chacune parlait une langue différente. Ils sont partis aussi beaucoup à travers le monde faire les entretiens, et dans chacun des pays on avait des fixeuses, donc des journalistes aussi souvent qui ont beaucoup travaillé avec les ONG, avec leur réseau, etc., pour trouver les femmes, mais surtout pour leur expliquer pourquoi il était important pour elles de participer à un projet comme ça aujourd'hui, et pourquoi il était important d'aller sur des sujets aussi intimes. Et c'est seulement quand toutes ces femmes étaient là, étaient prêtes et avaient compris le projet, qu'on allait sur le terrain. Et là encore une fois, les entretiens étaient très longs, et parfois on avait 3-4 entretiens dans la journée, et ben finalement il se passait tellement quelque chose de fort dans un de ces moments qu'on arrêtait tout et qu'on passait toute la journée avec une femme. Donc voilà, on n'est pas du tout dans un truc mécanique où on se dit ok, bon ben la suivante, ah, ça n'a pas marché, tant pis. Non,
c'était,
on prenait vraiment le
ça.
temps, et on faisait en sorte que ça soit une célébration pour toutes ces femmes. Et pour moi vraiment c'est ça, que en parlant du film souvent on me dit, bon c'est quand même des sujets durs, on sort avec un sentiment de, voilà, aussi d'injustice que les femmes. Mais moi, pour moi, ce film c'est la célébration des femmes. C'est un film qui montre leur résilience, qui montre leur force, et je voulais aussi que pendant l'entretien ils ressentent ça.
Et qu'on ne parle plus de sexe faible.
Plus jamais.
Alors c'est intéressant parce que pour celles et ceux qui n'ont pas encore vu le film, évidemment on vous invite à aller le voir, mais vous le verrez, c'est construit d'une certaine manière, c'est-à-dire qu'au final on voit toutes ces fans, cette célébration de femmes, mais il n'y a pas de prénom, il n'y a pas de métier, il n'y a pas d'origine, il n'y a pas
rien.
De pays, et finalement ça
d'ailleurs,
rend
on
le
se
propos
demande à chaque fois.
Et ça rend le message absolument universel. Je pense que c'était le but. Et de l'avoir structuré en fonction des thématiques que toutes les femmes à un moment donné, comme la maternité, comme le rapport au corps, la vieillesse, la maladie, le
l'amour.
Cancer du sein, l'amour, l'orgasme, toutes ces thématiques qui finalement sont éminemment universelles, et que toutes les femmes, quelle que soit l'origine et quel que soit le pays où on vit, où on évolue, on est confronté à son premier rapport sexuel, au rapport à l'homme, au rapport à son corps, à son image. Comment vous avez structurer ça pour que ce soit si universel finalement?
Alors on avait 2 visions, c'est là où c'est aussi intéressant, voilà, le fait qu'on a collaboré avec Yann. Bon, ça fait 12 ans qu'on travaille avec Yann, mais pour le coup je pense que c'est vraiment pour la première fois de sa vie qu'il co-réalisait un film, et c'est intéressant de le faire à 74 ans pour la première fois. C'est une vraie expérience aussi, je pense, pour lui. Et Et c'était intéressant parce que Yann, dès le départ, était beaucoup dans la dénonciation. Voilà, c'est un activiste, c'est un homme engagé. Et donc, à chaque fois qu'il me parlait du film, c'était comme s'il faisait un catalogue de tous les problèmes que les femmes subissent à travers le monde. Et moi, je lui disais, mais Yann, si on veut poser cette grande question de qu'est-ce qu'être une femme dans le monde d'aujourd'hui, on peut pas juste réduire les femmes les discriminations, voilà les problèmes, voilà les enjeux. Non, il faut qu'on aille sur quelque chose de beaucoup plus personnel, de beaucoup plus intime. C'est la seule façon pour moi de créer ce lien invisible qui, moi, voilà, je pense, nous lie toutes et qui fait en sorte que ce film va résonner avec chacune des femmes qui va le voir et que ça va aussi être une découverte pour les hommes. Si c'est qu'un catalogue des problèmes, bah très vite, franchement, oui, au début on va être touché, mais très vite ça va être lassant. Et surtout, heureusement que la vie des femmes n'est pas que ça, quoi. Et donc, voilà, je lui dis, mais par exemple, il faut qu'on parle des règles. Alors je vous raconte, pas la première fois que je lui dis ça, il m'a regardé en disant, mais quel intérêt ? Pourquoi ? Et je n'ai même pas voulu répondre à cette question en disant, bah, écoute, on va faire les entretiens, quelques entretiens, tu vas les écouter et on verra. Et une fois qu'il les avait écoutés, il n'avait plus posé cette question. Parce que d'un coup, il avait compris pourquoi. Et je pense que ce qui est intéressant, c'est que finalement, nos deux visions se sont trouvées sur ce film. Et donc, en partie, il y a tous ces sujets universels dont vous parlez, où pour le coup, chaque femme aurait quelque chose à raconter sur la sexualité, la maternité ou la non-maternité, l'amour, le travail, les discriminations, pouvoir, etc. Le pouvoir, voilà, tout ça. Je veux dire, on n'a pas besoin d'une histoire particulière pour raconter quelque chose. Et puis, par contre, il y avait aussi des choix de réalisation, des sujets qui nous tenaient à cœur. Et dès le départ de ce projet, on voulait les aborder. Et par exemple, le sujet du viol de guerre, voilà, on savait que... on voulait parler de ça en se disant comment c'est possible encore en 2020, comment ça peut encore exister. Donc ça, c'était quelque chose où pour le coup, c'est sûr qu'on est cherche, on est allé chercher des femmes qui avaient vécu spécifiquement des choses liées à ça. Et évidemment, voilà, heureusement que c'est pas toutes les femmes qui subissent ce genre de choses.
Est-ce que vous vous êtes adapté aussi à l'évolution de la libération de la parole, cette libération à laquelle on assiste et qu'on défend évidemment dans notre émission autour des règles? On n'a jamais autant parlé de règles aujourd'hui. Des témoignages et même de la jouissance de l'orgasme féminin. C'est vraiment des thématiques qu'on aborde partout dans le monde, alors plus évidemment dans les pays occidentaux. Mais est-ce que vous vous êtes adapté, vous, au fur et à mesure de la réalisation de ce film, en disant bah, ça, c'est un sujet que j'aurais pas a priori pensé, mais là, je sens qu'il y a quelque chose à faire, donc allons-y.
Non. En fait, on s'est pas du tout appuyé sur l'actualité. Pas du tout. On s'est vraiment appuyé sur les femmes. Et on a travaillé pendant 2 ans sur les tournages. Il y a eu une première année où je suis beaucoup partie toute seule pour vraiment tester les questions, les différentes thématiques et me dire, OK, entre ce que nous, on imagine avec Yann, les sujets qu'on a envie d'aborder et les choses que les femmes nous racontent, finalement, qu'est-ce qui est plus important? Et du coup, ce sont les femmes qui nous ont guidées elles-mêmes et qui nous ont fait comprendre ce qui était vraiment essentiel pour elles. Et donc, on a réadapté certaines thématiques ou certaines questions en fonction de ce qu'on avait comme témoignage et en fonction de ce que les femmes nous racontaient. Par contre, voilà, la sexualité, moi, c'était dès le départ, je voulais, parce qu'en fait, je voulais libérer la parole des femmes sur tous les sujets. Pas que sur les sujets durs, pas que sur les, parce que le tabou, il est partout, en fait. Et du coup, je me suis dit, mais voilà, c'est important qu'on parle de sexualité. Mais je vais être honnête. Je n'étais pas du tout sûre qu'on allait y arriver. Oui. Moi, au début, je me suis dit, OK, c'est sûr, dans certains pays, on va y aller, on va essayer, mais certainement que ça marchera très moyennement. Et d'ailleurs, on voyait bien avec les fixeuses, qui souvent nous servaient aussi de traductrices quand on ne parlait pas la langue, certaines questions qu'on posait, elles n'arrivaient même pas à les poser. On posait une question qui faisait 2 phrases, elle mettait 5 minutes à la traduire. Donc, je disais, OK, donc là, elle est en train de passer par plein de façons. Voilà. Elle n'arrive pas à le dire, le mot orgasme, par exemple. On voit bien qu'elle ne le dit pas. Là, elle cherche une autre façon d'aborder la question. Et pourtant, une fois qu'on ouvrait cette porte, c'était l'avalanche. Mais ça veut dire comme si les femmes avaient attendu toute leur vie de pouvoir enfin en parler, comme si elles n'attendaient que ça.
Mais ce qui est étonnant.
Donc non, on ne s'est pas adapté. En fait, les femmes, elles étaient prêtes de parler de ça. C'est juste qu'il fallait ouvrir la porte.
Hein. Et ce qui est étonnant, c'est que ce n'est pas forcément, tu parlais des pays occidentaux ou d'autres pays, c'est que même ça peut être tabou, la sexualité peut être tabou, même en France ou même ailleurs. Alors moi, je reviens juste sur ces deux sujets qui sont l'amour et la sexualité. Quand on regarde le film, finalement, c'est quand même les deux sujets qui sont universels, quel que soit l'âge, quel que soit le pays, quelle que soit la culture, quelle que soit l'éducation. Alors, est-ce que c'est parce qu'on parle de lâcher prise et que finalement, quand on parle de lâcher prise, on oublie tout ça, justement, c'est-à-dire nos origines, notre éducation, les freins, les paramètres? Et est-ce que c'est pas ça la magie, justement, de l'amour et de la sexualité, ou d'être dans un lâcher prise total et de ne plus être de tel pays ou de tel âge ou de telle génération ou de telle famille, hein?
En tout cas, c'est sûr que sur ces deux sujets, il y avait quelque chose de... Oui, de très commun en fait, et qui dépassait les langues, qui dépassait les barrières. Mais moi, j'ai pas trouvé que c'était que sur ces sujets-là. Moi, je trouvais que par exemple sur la maternité, les femmes se retrouvaient énormément. Sur, en fait, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de sujets au-delà des contextes, au-delà des langues et au-delà des barrières sur lesquelles les femmes se retrouvaient. Et d'ailleurs, tout à l'heure, vous me demandiez pourquoi on n'a pas mis, ou en tout cas, vous constatiez qu'on n'avait pas mis les pays et qu'on n'a pas donné le contexte. C'est une question qu'on me pose très souvent. Pourquoi on l'a pas fait ? Et non, c'était un choix délibéré en disant mais pour parler de l'amour, pour parler de la sexualité, pour parler de la maternité. Est-ce qu'on a besoin de savoir si tu viens du Congo, si tu viens du Bangladesh, de la France ou des États-Unis ? Et au contraire même, en fait, à partir du moment où tu mets « elle, elle est congolaise », malgré nous, alors qu'on n'a pas envie peut-être de le
on
faire,
a le filtre.
On met déjà, il y a déjà un filtre, il y a déjà quelque chose, un cliché, des stéréotypes et tout qui sont là dans notre tête et qui sont plus forts que nous. Et nous, on ne voulait pas enfermer les femmes dans des stéréotypes, on voulait les libérer. Donc on s'est dit, en fait, ce qui est important, ben, c'est qui elles sont, est-ce qu'elles ont à partager, point barre. C'est pas ni d'où elles viennent, ni dans quel contexte elles ont été élevées, ni dans quel endroit elles habitent. Donc voilà, on s'est dit, ok, c'est un choix, on les mettra pas. Mais par contre, pour les sujets les plus spécifiques, où pour le coup c'était vraiment important de comprendre le contexte, on a fait en sorte que par le témoignage, on le comprenne. Par exemple, quand on parle de viol de guerre et les femmes yézidis nous parlent de Daesh, bon ben voilà, elles citent vraiment le contexte, elles racontent à travers le témoignage des choses qui nous permettent de comprendre que ça s'est passé en Syrie, que voilà, c'était Daesh, etc. Donc sur ces sujets, c'est par les témoignages eux-mêmes qu'on a fait le nécessaire pour qu'on comprenne bien de quoi on parle.
Et cette universalité, finalement, malgré les tabous, et vous disiez à l'instant la difficulté parfois de poser la question en parlant de l'orgasme, peut-être pour la traductrice, mais en tout cas dans la réaction, c'est assez incroyable. On se rend compte que des femmes de tribus, quand elles parlent de leur orgasme ou de leur plaisir ou de leur jouissance, eh ben elles ont toutes la même réaction. Elles rient, elles sont solaires, elles sont
libres.
Et elles sont libres. Et finalement, peu importe leur culture et leurs origines, ce sont des thématiques qui parlent à toutes ces femmes et qui amènent à la même réaction. Elles deviennent libres.
Et c'était très intéressant la façon dont ça se passait. Moi, je me disais au début, ok, bon, on va ouvrir un peu cette porte, entre-ouvrir, on va voir ce qui se passe et tout. Et comme je disais tout à l'heure, c'était comme une avalanche, quoi. D'un coup, ça sortait, on pouvait plus les arrêter. Et certaines, on a dû vraiment couper au montage en se disant, non, mais attends, ça va devenir un film érotique, en fait, si ça continue. Parce qu'il y avait certaines, et notamment les femmes où on l'aurait attendu le moins, dans des endroits super reculés, de Madagascar, au fin fond, mais de certains trucs, tu te dis, mais comment elle est en train de nous raconter un détail ce que son mari lui fait la nuit et après quand elle fait cette position ce qu'elle préfère parce que là il se passe ça et tout et mais elles étaient prêtes à nous dire mais tout et nous quand on nous traduisait on disait non mais là, t'es sûre là
t'es sûre qu'elle est en train de dire ça
cela dit vous nous posez la question Anastasia à toutes les deux la même question vous aurez deux réponses totalement différentes dans la réponse par rapport à la sexualité et l'intimité
mais en tout cas, ce qui
montre bien que
mais ce qui était intéressant c'est que du coup oui il n'y avait quasi aucun filtre et vraiment une sorte de liberté et presque en fait c'était presque enfin je peux parler de tout ça, enfin il y a quelqu'un que ça intéresse et du coup nous aussi on était surpris parce que voilà on espérait pouvoir aborder ces questions, on espérait pouvoir libérer la parole des femmes mais on n'était absolument pas sûr d'y arriver, donc pour nous aussi ça a été un magnifique cadeau quelque part.
Et donc trouver ces femmes finalement comment ça s'est fait, c'était quoi le pitch de départ, comment les chercher, comment accéder à elles, ça paraît incroyable tous ces profils différents, donc comment ça s'est fait?
Comme j'expliquais, on avait des fixeuses qui travaillaient pendant des mois et des mois en amont. Et c'est vrai que c'était un peu au début, c'était toujours un peu difficile.
Elles me demandaient les critères.
Hein. Alors oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux comme casting déjà? C'est pas vraiment un casting.
Bien sûr.
Ok, quel âge? Tous les âges. Quel métier?
Tous les métiers.
plutôt ville ou campagne? Les deux.
Les deux.
Bon, tu veux que je cherche quoi en fait? Enfin, voilà, je sais pas où chercher. Et du coup, ce qui était intéressant, c'est que du coup. C'était tout le travail pour leur faire comprendre que c'était pas à ce niveau-là que les choses se passaient, que c'était pas ça finalement qui était important. C'était plutôt de trouver les femmes qui étaient prêtes à prendre la parole et qui étaient capables de le faire devant une caméra. Parce que ça, c'est pas évident. Et il y a des gens qui ont envie de le faire, mais qui n'ont pas la capacité de le faire. Ou il y a des gens qui ont la capacité de le faire, mais qui sont dans des situations trop compliquées encore aujourd'hui pour pouvoir ensuite assumer les choses, etc., une fois que l'interview sera enregistrée. Donc le travail se faisait aussi beaucoup à ce niveau-là. Parce que finalement, toutes les femmes ont des choses intéressantes à raconter. Toutes les femmes ont des histoires incroyables à partager, mais toutes ne sont pas capables ou n'ont pas forcément envie de le faire. Et donc, le travail se faisait plutôt à ce niveau-là. Et pour nous, l'idée, c'était d'avoir une diversité dans chacun des pays, de tous les âges, tous les métiers, voilà, toutes les origines, et puis ville, campagne et tout. Et après, encore, comme je le disais, là, sur certains autres sujets, c'était plutôt des profils spécifiques où on a fait des tournages parce qu'on est allé chercher des choses spécifiquement, voilà, sur l'avortement illégal en Chine, sur l'avortement sélectif en Chine. Ça, c'est un sujet qui me tenait vraiment à cœur. Parce que pour moi, de toutes les manières, le sujet central de ce film, même s'il y a beaucoup de sujets différents, ça reste le corps des femmes. Pour moi, tout ce qu'on raconte revient au sujet du corps. Et donc voilà, l'avortement faisait partie de ces sujets-là. Il y a certains pays de plus en plus qui veulent interdire, mais il y a d'autres qui ont forcé et qui forcent les femmes à avorter.
Et puis il y a eu des évolutions. On parle de l'Irlande à un moment donné où ça ouais. n'était pas permis et ouais. c'est devenu.
Ça a été légalisé entre-temps, un peu. Alors
par exemple,
on venait de finir le tournage et c'était très intéressant. Et finalement, les tournages c'était un mélange entre des sujets comme ça spécifiques où on a été chercher des femmes qui avaient vécu certaines choses et d'autres beaucoup plus ouvertes. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a jamais réduit une femme à un sujet. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'elles se sentent célébrées. C'est pour ça qu'elles sentent que c'est une célébration de leurs histoires, de qui elles sont. Parce que finalement, quand on allait voir une femme qui avait vécu le viol, on lui disait jamais, bon, toi, tu vas parler que du viol. On lui posait aussi toutes ces autres questions sur l'amour,
personne,
la sexualité.
Tout son contexte.
Parce que c'est pas parce qu'on a vécu le viol qu'on doit toute notre
vie pas réduite à ça.
Réduite à ça, exactement. Et j'ai fait un débat avec une chercheuse, pourtant une femme respectable et tout, qui m'a dit un jour, mais je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas d'hiérarchisation d'informations dans votre film. Vous mettez tout au même niveau. Et je dis, mais qui sommes-nous pour dire ce qui est plus important? Qui suis-je pour dire si c'est la sexualité, l'amour, le travail, la discrimination et les violences? Ouais.
Là, vous avez reflété la réalité de
C'est pas à moi de décider. C'est à tous ceux qui regardent de retenir quelque chose. C'est aux femmes par elles-mêmes. Et d'ailleurs, les femmes, très souvent, au contraire, ne voulaient surtout pas qu'on mette un sujet plus important que les autres. Parce que tout est aussi important dans la vie d'une femme. Tout.
Est-ce qu'il y a eu de la censure alors dans ce film? Est-ce que vous êtes mis ou vous êtes auto-régulé dans certains propos? Vous avez dit,
je
on
dirais
va pas sur
ça.
Ce terrain-là.
Non. Non, non, on ne s'est pas dit ça. On s'est plutôt dit, on a beaucoup, beaucoup travaillé vraiment dans le respect des femmes. En se disant, il faut que ça soit une célébration de début à la fin de l'interview et jusqu'à la fin du montage et la promotion du film et sa vie en salle, et etc., etc. Et donc, pour les témoignages les plus compliqués, où je savais, quand le témoignage était assez dur ou impliquait des choses, voilà, pour la femme, jusqu'au bout du montage, on les a rappelés en disant, ok, tu sais, ça s'est passé dans une chambre noire, on n'était que toutes les deux. Mais c'est des millions de gens qui vont le voir. Ça fait plus d'un an. Peut-être que tu as changé d'avis. Peut-être que tu as réfléchi. Certaines femmes, on les a rappelées 3-4 fois.
Pour s'assurer que ça ne n'allait pas.
Bien sûr. Et c'est pas tellement la censure. C'était plutôt veiller à ce que leur voix soit vraiment là et leur envie soit là aussi. Et du coup, moi, je pensais, pour être honnête, qu'il y aurait plus de femmes qui changeraient d'avis. Que certaines me diraient 8 mois après ou un an plus tard.
Vous leur avez donné les témoignages. Elles ont vu les témoignages.
Pour les témoignages les plus durs, on leur a montré les extraits. Et du coup, je pensais qu'ils allaient me dire oh, écoute, franchement, là, j'ai réfléchi, j'ai changé d'avis. Sur les 2000 témoignages, il y a peut-être 10 femmes qui ont changé d'avis. Donc, quand on dit que les femmes sont prêtes, 100%. C'est qu'elles sont prêtes. Et la plupart me disaient d'ailleurs oui, c'était difficile. Oui, c'était. J'avais pas envie forcément de retourner dans ces endroits-là.
Mais ça m'a fait du bien.
Mais c'était la seule façon de parler de ce dont j'avais envie de parler et qui était important pour moi de faire passer comme message. C'était nécessaire et c'était mon choix. Et à partir du moment où ils disent c'est mon choix, en effet, on ne va pas décider pour elle. Donc voilà.
Qu'est-ce que ce film a changé dans votre vie? Parce que rencontrer autant de femmes, parcourir, parce que nous, on a vu finalement, c'est une miette de tout ce que vous avez vécu en moment, en interview, en parole. Qu'est-ce que ça a changé? Quel regard, ou même dans votre vie intime ou dans votre vie de femme, qu'est-ce que ça a changé?
C'est ça, on pourrait parler pendant 4 heures.
De c'est ce ça. Que ça
je ne vais pas, vous expliquer tout ça en détail.
C'est trois choses.
En tout cas, c'est sûr que ça m'a fondamentalement changé. Il y a deux choses vraiment que j'ai ressenties de façon très très forte. La première, c'est ce lien invisible vraiment qui existe entre les femmes.
La sororité qu'on parle aujourd'hui.
Au-delà, voilà. C'est difficile de mettre un mot parce que c'est tellement au niveau émotionnel. sensoriel presque ce que ça se passe, que voilà, peut-être le mot sororité, c'est lui qui se rapproche le plus. Mais je pense qu'il n'y a pas un terme qui peut définir ça. Mais en tout cas, moi, dans chacune des interviews que j'ai pu faire, j'étais à l'autre bout du monde, au fin fond du Bangladesh, avec une femme qui n'avait rien à voir avec ma vie. Et je me disais, mais il y a.
Et tu vous sentiez proche, il y avait quelque chose.
Plus que proche, connectée, complètement connectée. Et j'ai rié à ce qu'elle racontait avant même qu'on me traduise en détail ce qu'elle était en train de dire. J'ai pleuré avec elle. Enfin, tu vois, on partageait tellement de choses alors que nos vies n'avaient rien à voir. Et c'est drôle parce que dans chacune des projections, les femmes se lèvent dans la salle ou viennent me voir après pour me dire, mais tu sais, c'est fou, j'avais l'impression de connaître toutes ces femmes.
Et au début,
je les connais en fait, je les ai déjà croisées. Au bout d'un moment, je me disais, ah non, elles sont dans 50 pays différents, c'est impossible. Mais c'est le sentiment qu'on a. Et voilà, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment ressenti au plus profond de moi. Et l'autre chose, qui est un peu plus triste, mais je me suis rendu compte à quel point mon histoire, ma propre histoire, restait encore une exception. Parce que moi, mon histoire personnelle, c'est que voilà, je suis née dans une famille où toute ma vie, on m'a dit que j'étais la plus intelligente, la meilleure, que j'allais réussir des grandes choses et que de toutes les manières, j'étais née pour réussir. Et moi, je pensais que c'était normal.
Et on t'a donné les moyens pour le faire, en plus.
Ah, bah, bien sûr.
On m'a totalement accompagnée.
On m'a donné la liberté totale de choisir ce que j'avais envie de faire. On m'a toujours, voilà. Et j'ai une mère qui est juste, voilà, la meilleure mère du monde, comme toutes les autres femmes. Beaucoup d'autres femmes, mais en tout cas qui m'a toujours, toujours dit que j'allais réussir des grandes choses dans ma vie, que tout était possible. Et, j'ai un mari, voilà, qui me respecte énormément, qui m'admire, qui fait tout à la maison. Je sais même pas faire une omelette. et voilà, qui est là, qui fait tout, quoi. J'ai un homme au travail.
On vit la même chose.
Non, mais tu
je
vois,
me fais
c'est...
plus à manger.
Et j'ai un... moi, je n'ai jamais fait. Et j'ai un homme au travail qui pourtant a une grande carrière, qui a réussi beaucoup de choses, que les gens admirent et qui lui me met tout le temps au centre, qui m'écoute, qui me respecte. C'est voilà. Et moi, j'ai pensé malgré tout, malgré toutes les difficultés, qu'il y avait beaucoup de femmes comme moi dans le monde. Et en faisant tous ces entretiens, je me suis rendu compte à quel point je reste une exception. Et j'espère qu'avec ce film et avec tout ce que vous aussi vous faites et tout ce qui se passe en ce moment, bah, qu'il y aura un peu plus d'exceptions comme ça.
Ah bah c'est un très beau message en tout cas.
C'est un beau mot de la fin, on pourrait parler des heures.
Merci en tout cas pour ce film. On encourage vraiment nos auditrices et nos auditeurs, hein, parce que c'est un film tellement universel que les hommes, évidemment, doivent aller voir ce
film. Très important, très important.
Et c'est sorti le 4 mars et ça s'appelle Woman et c'est juste... sublime, voilà, j'ai pas d'autres mots.
Il y aura aussi un livre
et une exposition.
Et une exposition immersive, un livre de 350 pages avec plein de témoignages en plus qui va sortir la même semaine que le film, donc 4 mars. Et une exposition immersive à la Villette, ça va être assez dingue, à partir du mois de mai.
Mais il y a déjà une petite exposition à l'UGCCinécité à Strasbourg. Voilà, et ben merci en tout cas et longue vie
à ce beau projet.
Voilà, on arrive à la fin de ce podcast. On est très fiers, hein, de vous avoir partagé cette rencontre. On vous invite évidemment à aller découvrir ce film Woman et Woman, girls, grandes girls, femmes, super-héros. Et puis évidemment, on vous invite à aller commander votre couscous.
Ou votre chouchou. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, on vous donne plus d'infos et à très vite.
À très vite.
Oui, je suis une femme. C'est une identité, sa femme.
Quand une fille dit non, j'ai l'impression quand même que souvent ça sous-entend que c'est...
C'est non.
Ma sœur, nous avons des cœurs si à moi et chaque coup que tu reçois.
C'est d'abord aux femmes de faire avancer le féminisme. Mais si t'es un mec, ça t'empêche pas d'être un allié.